Pati mamsulo mauvais temps barré.
Waso ke tia tia wasone a son ponore les loyaux. Dans bala ouet au côté rouillé même engagé. Wasone a son wason de diabo ponore les loyaux. Ezuli dans ton côté rouillé même engagé. Ezuli
ciel, terre, soleil.
C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en yé pas ça fait moins. Aïe moi c'est garçon, moins poté qu'en somme, c'est pas pour belle toile. C'est petit nagom, c'est petit qui n'est en yé pas ça fait moins. Aïe moi c'est garçon, moins poté qu'en somme, c'est pas pour belle toile. Mes amis,
ciel, terre, soleil, petit moi malade, moi t'as remé traité.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
RFI, Radio France Internationale, 7h à Paris, 8h à Beyrouth.
Andréane Mélard.
Et 6h en temps universel. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, Paul, Israël continue de traquer le Hezbollah dans ses multiples bastions.
Oui, en frappant plusieurs quartiers de Beyrouth hier, mais aussi la ville de Baalbek dans la vallée de la Beka, c'est dans l'est du pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux est à écouter dans un instant. Les infrastructures gazières qui se retrouvent aussi visées ces dernières heures, à la fois par Israël et par l'Iran. Des missiles iraniens ont notamment touché le site qatarien de Ras Laffan cette nuit. Les prix du pétrole, eux, continuent de grimper. Cette guerre au Moyen-Orient, elle sera aussi au sommaire du Conseil européen qui démarre à Bruxelles aujourd'hui. Et puis à l'approche du second tour des élections municipales en France, dimanche, les trois candidats à la mairie de Paris débattaient hier à la télévision dans une atmosphère bouillante.
Les appels à cesser les hostilités au Liban se multiplient.
Et pour témoigner de la solidarité et du soutien de la France au peuple libanais, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se rend au Liban aujourd'hui. L'Union européenne, de son côté, a aussi demandé à Israël de cesser ses opérations dans le pays.
Sauf que l'État hébreu ne l'entend pas de cette oreille.
Et l'armée israélienne a frappé hier trois quartiers densément peuplés de la capitale, Beyrouth. Deux ponts enjambant le fleuve Litani ont aussi été détruits dans le sud du pays pour isoler encore un peu plus le Hezbollah, le mouvement chiite, qui a aussi installé l'un de ses bastions à Baalbek. C'est dans la vallée de la Beka où de nouveaux bombardements ont notamment tué une famille hier. Nos envoyés spéciaux au Liban, Abla Jounaïdi et Jadel Khoury, s'y sont rendus.
À Baalbek, une frappe israélienne a tué plusieurs personnes, dont deux enfants, mercredi. Tout autour, des villages ont été ciblés, faisant aussi des tués. Pour échapper à la mort, plusieurs centaines de personnes ont trouvé refuge dans le village de Deir al-Ahmar depuis la nuit du 2 mars dernier, début de la guerre.
On a été la première école à ouvrir ses portes.
Le directeur de l'école secondaire, Sharb
el-Saadeh. Parce qu'on est le village le plus proche de Baalbek, les gens qui ont été touchés sont venus ici immédiatement. Et on était prêts à les accueillir.
Village chrétien accueillant des déplacés majoritairement chiites. Un geste tout sauf inédit, assure Jaafar, un vieil homme de Baalbek.
Les gens de Deir el-Ahmar se sont bien occupés de nous. Et ce n'est pas la première fois. C'était déjà le cas en 2024 et avant ça encore en 2006. On s'était installé dans leurs écoles. Ils ont toujours pris soin de nous.
La mairie a ouvert ses portes à 5000 personnes de la vallée de la Beka, à qui elle offre grâce à des ONG un repas chaud quotidien, au moins. Nous ne pouvons faire plus sans aide internationale, déplore le maire adjoint du village. Ablajounaï Dijad El Khoury, Beyrouth, RFI.
Et selon les autorités libanaises, depuis le 2 mars, 968 personnes sont mortes dans la guerre au Liban.
Face aux frappes iraniennes, l'Arabie Saoudite se rebiffe.
Et dit se réserver le droit de répliquer militairement si cela s'avère nécessaire. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef de la diplomatie saoudienne. Et ce alors que des drones ont de nouveau été interceptés hier soir à proximité d'un complexe énergétique dans l'est du pays. Cette nuit, c'est un site gazier, le site gazier de Ras Laffan au Qatar, qui a été frappé par l'Iran. En représailles, un bombardement israélien sur le champ de gaz de South Pars, qui est précieux pour Téhéran. Le président américain Donald Trump a menacé de le détruire entièrement si le GNL qatarien était encore visé.
Ce qui est également vital pour l'Iran, c'est son pétrole.
Oui, pétrole que le régime parvient encore à exporter dans des quantités presque aussi importantes qu'avant la guerre, et ce, malgré le blocage du détroit d'Ormuz, Pierre-Olivier.
L'Iran continue d'exporter 1 200 000 barils par jour, soit à peine 300 000 de moins qu'avant la guerre. Les autres pays du Golfe, eux, sont en difficulté, en cause le blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran qui laisse passer ses propres pétroliers. Omayoun Falakshahi, responsable de l'analyse pétrolière chez Kepler.
Les Iraniens savent qu'il s'agit d'un navire transportant leur pétrole, donc ils ne vont pas l'attaquer.
Destination, la Chine. 12% du pétrole consommé par le géant asiatique provient d'Iran via Ormuz. Omayoun Falakshahi.
Si la Chine n'a plus accès à ce pétrole, les acheteurs chinois de pétrole iranien vont devoir se procurer en pétrole ailleurs. Donc en fait, ça va tendre le marché encore plus qu'il n'est tendu aujourd'hui.
Conséquence, les Américains fortement déployés près du détroit d'Ormuz laissent les pétroliers iraniens passer.
Pour les États-Unis, le principal risque, c'est que le prix du pétrole devienne incontrôlable. Et ça pourrait accroître la pression politique sur l'administration Trump pour arrêter la guerre.
Un moyen aussi d'éviter une escalade dans la région. Pour preuve, les récents bombardements américains sur l'île iranienne de Karg, point névralgique de l'industrie pétrolière, n'ont visé que les installations militaires et pas les dépôts de brut.
Et comme l'expliquait Pierre-Olivier à l'instant, ces prix du pétrole ne s'envolent pas complètement en flèche en raison des exportations iraniennes, mais le tarif du baril de Brent a quand même augmenté de 5% cette nuit, atteignant quasiment 113 $. Cette instabilité des coûts de l'énergie provoquée donc par cette guerre au Moyen-Orient, ce sera le dossier brûlant abordé aujourd'hui à Bruxelles où démarre le Conseil européen. Les 27 dirigeants de l'UE seront présents et vont donc devoir s'entendre pour déterminer une position commune face à cette nouvelle crise majeure, Daniel Valo.
C'est une tradition qui a décidément bien du mal à être respectée à Bruxelles. Le sommet européen du printemps est censé être consacré aux questions économiques, mais une fois encore, les soubresauts de la planète vont bousculer l'agenda initial. Avec cette nouvelle guerre au Moyen-Orient, les dirigeants européens doivent en effet relever un double défi. Défi numéro 1, adopter une position commune sur ce conflit que les pays européens refusent de soutenir sans pour autant le condamner, en tout cas avec la même véhémence et la même clarté que l'a fait jusqu'à présent l'un d'entre eux, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Défi numéro 2, trouver des mesures de soutien économique pour éviter une envolée des prix de l'énergie. La Commission européenne doit proposer des solutions de court terme, mais certains pays veulent aller au-delà, surtout ceux comme l'Italie qui ont parié ces dernières années sur le gaz et sur le pétrole et qui réclament un assouplissement du marché carbone. Au sein des institutions européennes, on se veut cependant rassurant. Nous sommes encore loin des niveaux atteints par les prix de l'énergie en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, souligne à Bruxelles, un responsable européen.
Daniel Valo.
L'Europe face à la guerre au Moyen-Orient, en Ukraine. Arnaud Pontus en parle dans 10 minutes avec son invité, l'ancien commissaire européen et ancien ministre Thierry Breton.
Impossible pour les Sénégalais de retirer de leur maillot la deuxième étoile acquise fin janvier. La décision de la CAF de désigner le Maroc vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football ne passe toujours pas chez les autorités sénégalaises. Hier, le gouvernement a fait part de sa vive consternation et réclamé confirmé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la Confédération africaine de football.
On en reparle dans la revue de presse africaine à 6h44, temps universel. Un appel à l'aide, Paul, lancé par des déplacés ayant fui les combats dans l'est de la RDC.
Oui, plusieurs centaines d'entre eux ont en effet passé la nuit de mardi à mercredi devant le gouvernorat de la province de Lubumbashi. Ces Congolais ont quitté leur terre où se déroulent des affrontements entre la FCM-23 appuyée par le Rwanda et les FARDC et ses alliés. Aujourd'hui, ils n'ont ni abri ni nourriture. Les défenseurs des droits humains dénoncent l'indifférence de l'État face à cette situation, Denise Maéo.
À l'entrée du gouvernement provincial ce mercredi matin, des centaines de déplacés, parmi eux des femmes et des enfants, sont assis à même le sol. Certains, visiblement fatigués et affamés, sont allongés. Depuis 24 heures, ils demandent une assistance, explique Paul Biamungu, leur président.
Nous n'avons ni nourriture ni soins de santé. Les maisonnettes qui nous abritaient se sont écroulées à la suite des grosses pluies de ces derniers temps. Presque toutes les familles passent la nuit dehors. Nous venons ici pour voir les autorités afin qu'elles nous aident.
Depuis des semaines, ces déplacés font la ronde des institutions provinciales dans l'espoir de se faire entendre. Maître Hubert Kiswaka, directeur de l'Institut de recherche en droits humains, qui les accompagne, s'est dit choqué.
Se laisser aller prouve que l'État est complètement en faillite. Les gens ont fui la guerre, ils n'ont rien, ils cherchent de l'aide et l'État les abandonne sur la rue et en pleine ville devant le bureau du gouverneur. C'est choquant.
Mercredi soir, le gouvernement provincial a promis de leur apporter de l'aide dans les 3 jours. Les déplacés sont retournés dans les quartiers où ils sont provisoirement logés, certains dans des églises. Denise Maéo, Lubumbashi, RFI.
En RDC, toujours, Modeste Baati a décidé hier de démissionner de son poste de deuxième vice-président du Sénat. Il était visé par une pétition à son encontre pour le motif d'incompétence depuis des déclarations jugées opposées à une potentielle révision constitutionnelle poussée par le parti présidentiel. La campagne pour le second tour des municipales en France s'accélère. Il reste 3 jours avant le vote. À Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire, Rachida Dati pour la droite et l'insoumise Sophia Chikirou vont se disputer l'Hôtel de Ville dimanche. 3 finalistes qui ont débattu hier soir à la télévision sur BFM TV. Des échanges qui ont duré 3 heures sur un ton parfois houleux. Et le candidat de la gauche unie, arrivé en tête au premier tour, a évidemment été au centre des joutes, Raphaël Delvolvé.
Face à une adversaire en retard sur lui, Rachida Dati.
Monsieur Grégoire, il veut faire un front républicain pour occulter le mauvais bilan qu'il a.
Une concurrente, Sophia Chikirou, sans rien à perdre et s'inscrivant davantage dans une stratégie nationale visant à affaiblir le PS.
Et mon programme, c'est celui d'une rupture avec le monde du Parti Socialiste.
Emmanuel Grégoire choisit d'épargner l'insoumise avec laquelle il a refusé de s'allier, mais dont les voix l'intéressent au moins en partie.
Je n'ai qu'une seule adversaire. C'est Rachida Dati.
Rachida Dati dans le viseur et qu'il juge lié à l'extrême droite après le désistement de la zémouriste Sarah Knafo.
Vous ne pourrez pas être élu sans le soutien explicite de l'extrême droite. C'est une faute morale.
Pourquoi vous mentez ? J'ai pas d'accord secret.
L'ex-ministre de la Culture tente de balayer l'accusation et attaque à son tour l'héritier d'Anne Hidalgo sur la sécurité, le logement, mais aussi le récent scandale sexuel dans le périscolaire parisien avec son allié de circonstance.
On parle de viol d'enfants de 3 ans. Monsieur Grégoire fait comme s'il découvrait les choses, ça fait 12 ans.
Monsieur Emmanuel Grégoire devrait assumer ses responsabilités.
Au point de le mettre parfois en difficulté.
S'il y a eu des manquements, et à l'évidence il y en a eu, il y a des procédures qui sont en cours et qui tireront toutes les responsabilités.
Les discussions ont aussi souvent tourné à la foire d'empoigne.
Vous allez augmenter.
Bien sûr, nous avons
un unique débat à l'image d'une campagne tendue et dont les effets se mesureront ce dimanche.
Raphaël Delvolvé.
Et puis qu'est-ce qui se cache entre les rayons des supermarchés ? Une partie de la réponse se trouve dans un film, Paul, qui vient de sortir en France.
Et qui s'intitule La guerre des prix. C'est le premier long métrage d'Anthony Deschaux, un thriller social qui plonge dans les coulisses des négociations commerciales entre grandes surface et producteur laitier, Elisabeth Le Quéret.
Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale ?
Ils veulent miser à fond sur le local.
Entre eux, ils s'appellent les requins. Ce sont les acheteurs des grandes enseignes de distribution chargées de pressurer les fournisseurs, agriculteurs et éleveurs pour arracher des prix les plus bas possibles et gonfler ainsi les marges de leurs enseignes. Audrey, fille de paysan, débarque dans l'une de ces centrales d'achat avec ses convictions en bandoulière, défendre le bio, le local, les petits producteurs. Elle croit pouvoir réformer la machine de l'intérieur, mais c'est le système qui va la transformer, elle, en profondeur.
J'espère que vous savez ce que vous faites.
Avec la guerre des prix, Anthony Deschaux signe une fiction documentée nourrie de témoignages d'acheteurs repentis.
J'ai notamment parlé à une acheteuse qui avait à peu près le même âge que le personnage d'Audrey et qui m'a raconté beaucoup de choses sur la façon dont ça se passait dans ce milieu-là. Et donc voilà, j'ai pris différents témoignages. Mon enquête a duré 6 mois à peu près. Et d'ailleurs, je dois même vous dire que j'ai gommé certaines choses. C'est-à-dire qu'on m'a raconté des choses encore plus énormes que j'ai enlevé du scénario, parce que je me disais, là, ça va paraître trop caricatural et les gens ne vont pas y croire.
C'est quoi votre but ? C'est d'avoir un petit pouvoir ?
La guerre des prix ne finit pas bien et c'est voulu. On ne change pas un système avec de bonnes intentions. Ce film percutant, rythmé comme un thriller, lui a au moins le mérite de nommer les requins.
Elisabeth Le Carré.
Et Paul Lonsin-Spinelli, merci beaucoup RFI à Paris. Il est 7h13, notre invité à suivre Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre. D'abord à suivre aujourd'hui l'économie et le sport. Football et Ligue des Champions. Antoine Grenier, Liverpool s'offre une future revanche face au Paris Saint-Germain.
Éliminé par les Parisiens la saison dernière, les Reds auront l'occasion de conjurer le sort. Cette fois, en quart de finale, Liverpool qualifié hier grâce à un succès 4-0 à Anfield Road sur Galatasaray. Buteur à la 51e minute de ce match retour, l'attaquant français Hugo Ekitike va retrouver son ancien club avec qui l'histoire avait été aussi courte que difficile. Une saison parisienne en 2022-2023 pour 4 petits buts.
Ça va être intéressant, un bon match, un bon test pour moi, pour l'équipe. On a des parcours différents, ça reste un club que j'aime et voilà, c'est bien de les retrouver à ce stade-là de la compétition. Et voilà, après ce sera les individualités et comment on va se préparer tactiquement qui fera la différence. Mais voilà, on a la qualité, j'ai confiance.
Hugo Ekitike chez nos confrères de Canal+, seront également au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone qui a survolé son match retour 7-2 face à Newcastle, le Bayern Munich vainqueur 4-1 de l'Atalanta Bergame et l'Atlético de Madrid malgré sa défaite 3-2 sur la pelouse de Tottenham. Les quarts de finale aller se disputeront le 7 avril prochain.
Des quarts pour lesquels Bradley Barcola est très incertain.
Coup dur pour le Paris Saint-Germain, l'ailier du PSG buteur contre Chelsea souffre d'une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite. Barcola sera indisponible ces prochaines semaines, a annoncé son club.
Et l'attaquant qui ne sera donc pas dans la liste de Didier Deschamps dévoilée ce jeudi.
Dernière sélection avant la Coupe du Monde, révélée à 13h temps universel, dernier test éventuel à moins de 3 mois du Mondial. Barcola blessé, Kylian Mbappé convalescent devrait lui être là. En revanche, pas de Jules Koundé, touché aux ischio-jambiers. Lucas Digne et Théo Hernandez à la peine en club. La défense sera au cœur des attentions. Les Bleus qui affronteront les quintuples champions du monde brésiliens le 26 mars à Foxborough dans le Massachusetts et la Colombie le 29 à Landover dans le Maryland.
Didier Deschamps qui, après sa liste, aura un œil sur les 8e de finale retour de Ligue Europa.
Avec deux clubs français en lice, Lille et Lyon, l'OL reçoit les Espagnols du Celta Vigo. Les Gones, auteurs d'un nul, un partout, arraché dans les derniers instants grâce à un but à la 87e minute signé Hendrick. Prestation encourageante que le défenseur sénégalais Moussa Niarate compte bien reproduire à domicile.
Ce qu'il faut remettre, c'est quasiment 90% de ce qu'on a fait. C'est-à-dire remettre l'intensité, remporter nos duels, être agressif, être haut sur le terrain, faire circuler le ballon, avoir la possession, se créer des opportunités. Maintenant, ce qui a amélioré, forcément, c'est la finition. On a eu beaucoup d'opportunités la semaine dernière, on n'a marqué qu'un but. Être plus lucide, on va dire, dans le dernier geste, c'est ça qui nous a manqué, que ce soit la dernière passe ou la frappe. Mais sinon, le contenu était super séduisant. Je pense que ce sera plus simple à la maison si on arrive à mettre le même état d'esprit et la même rigueur. Mais eux aussi vont venir avec une mentalité dure, forte, pour pouvoir nous poser des problèmes. Et c'est aussi une équipe, même s'ils ont bien défendu la semaine dernière, ils sont capables aussi de bien attaquer.
Lyon-Celta Vigo, coup d'envoi 17h45 TU. Lille ira de son côté défier Aston Villa à partir de 20h, temps universel.
Antoine Grenier, merci. Voilà, ces nouvelles frappent encore cette nuit dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. On en parlait dans le journal. La riposte iranienne continue, notamment sur les monarchies du Golfe, l'Iran et ses drones Shahed utilisés dans pas mal de conflits, sur pas mal de théâtres d'opérations. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
On en parle ce matin dans Aujourd'hui l'économie de ces drones Shahed 136 parce que au-delà d'être performants, ils ne coûtent pas cher à produire.
Exactement. Et sur le papier, rien de pourtant très impressionnant.
grand, ce drone Shahed 136. Pour qu'on se fasse une idée, ça a une envergure d'environ 2,50 m. Son moteur est assez rudimentaire, comparable à celui d'une petite voiture. En ce qui concerne l'électronique, l'équipement est minimal. Un GPS, quelques capteurs, un pilote automatique, bref, un système simple. Et c'est parce qu'il est très simple à fabriquer qu'il est très intéressant. Car les États-Unis, par exemple, conçoivent des drones ultra sophistiqués, connectés, donc très coûteux. Eh bien, l'Iran a fait un choix différent en produisant des armes suffisamment efficaces, en grande quantité et surtout à très bas prix.
Alors justement Stéphane, pour qu'on se rende bien compte, est-ce qu'on a une idée d'un prix pour un drone Shahed 136?
Alors selon la revue Géopolitique, le Grand Continent, la production d'un drone de ce type coûterait entre 4 et 7 000 dollars quand un équivalent américain coûte 5 fois plus et qu'un missile pour l'intercepter peut dépasser le million de dollars. Bref, vous l'avez compris, on assiste à une asymétrie économique majeure, un drone bon marché face à des défenses extrêmement coûteuses.
Et comment l'Iran parvient à produire à un coût aussi bas?
Grâce à son tissu industriel civil, car contrairement à ce que l'on pourrait penser, fabriquer un Shahed 136, ça ne nécessite pas des technologies de pointe. On est finalement proche d'une petite voiture, la logique mécanique est la même, tout comme les matériaux de base, comme l'aluminium ou les composites. Et l'Iran dispose d'un secteur industriel civil important. Résultat, produire un drone, ça revient presque à produire une voiture, sachant que ça, Téhéran sait parfaitement le faire.
Mais alors, est-ce que les sanctions occidentales à son encontre n'empêchent pas un peu l'Iran de produire à cette échelle et à ce niveau?
Eh bien, c'est tout le paradoxe, hein, car depuis des décennies maintenant, c'est vrai, l'Iran vit sous sanctions économiques. La conséquence, c'est que le pays a été contraint de développer une industrie autonome. Ça marche pour les voitures, mais aussi pour les drones. Le moteur, il est fabriqué sur place, tout comme sa structure. Les matériaux sont aussi produits localement. Et même si certains composants restent importés via des circuits indirects, la force de cette production, c'est qu'elle est pratiquement 100% locale, donc indépendante finalement. Et puis Andréane, on peut aussi ajouter le coût de la main d'œuvre ou de recherche qui sont moindres par rapport à ceux des occidentaux.
Donc en résumé, l'Iran fait du moins sophistiqué mais du beaucoup plus accessible.
Voilà, c'est une logique de production classique appliquée au domaine militaire et ça change complètement la nature du conflit. La supériorité technologique n'est plus déterminante, bien au contraire, car ce qui compte aujourd'hui, c'est la capacité à produire vite, en masse, à bas coût et en s'appuyant sur des infrastructures civiles qui existent déjà. Bref, qu'un drone iranien qui coûte le prix d'une petite voiture d'occasion peut aujourd'hui tenir tête à des missiles d'interception à plusieurs millions de dollars.
Merci Stéphane Jeuneste. 7h19 à Paris, on passe tout de suite à notre invité. En studio face à Arnaud Pontus, l'ancien commissaire européen au marché intérieur, également ancien ministre de l'économie, Thierry Breton.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Les cours du gaz et du pétrole s'envolent ces dernières heures. Les marchés s'affolent après les dernières attaques contre des sites énergétiques du Golfe. Attaques qui s'ajoutent évidemment au quasi-blocage du détroit d'Ormuz. Un baril de Brent qui atteint les 113 dollars ce matin. Est-ce que c'est grave?
Ça va pas dans la bonne direction, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, les marchés, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils se sont pas emballés. Les marchés, ils misent encore sur une guerre, disons, relativement courte. Ils sont aussi très attentifs au fait que décision a été prise par les principaux producteurs de pétrole de libérer 400 millions de barils, donc sur les réserves stratégiques, de façon à effacer, gommer, donc, le blocage, les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz, dont je rappelle que c'est par là que passe 20% donc, de la consommation mondiale de pétrole. Ce qui fait qu'on a, en gros, une vingtaine de jours devant nous pour gommer les effets donc délétères qui sont produits par le fait qu'il y a tout simplement 20% de moins de disponibilité sur les marchés.
On a 20 jours, dites-vous, ça veut dire qu'il faut que la guerre soit courte.
Bien
car
sûr.
Sinon, on bascule dans autre chose.
Bien sûr, là, et c'est peut-être pour cela qu'on commence à voir effectivement les courses emballées, mais aussi pour une autre raison qui est extrêmement importante, c'est que jusqu'à présent, et ça me semblait extraordinairement signifiant, mais aussi important, les États-Unis avaient veillé à ce que les frappes, qui malheureusement sont ce qu'elles sont aujourd'hui, partout on le voit, des deux côtés du reste, que les frappes en tout cas épargnent les infrastructures pétrolières et gazières. Visiblement ça n'a pas été le cas hier, et donc immédiatement en rétorsion, donc il s'est passé ce qui s'est passé donc, sur la première usine de gaz GNL au monde, monde au Qatar, donc qui a été donc attaqué. Et là, si on rentre dans cette escalade,
ça veut dire alors, qu'il y a un emballement possible. Est-ce qu'on risque une perte de contrôle pour les épisodes que vous évoquez ? Israël revendique une frappe sur le champ gazier de South Pars, oui. En Iran, immense. Hein,
c'est au Qatar.
Les deux. Et on parle du plus grand champ gazier du monde.
Voilà,
en représailles, Téhéran cible les pétromonarchies. Est-ce que là, on est en train de perdre les pédales et
Il faut, c'est effectivement la raison pour laquelle le président de la République, cette nuit, a rappelé tout le monde à un moratoire. Parce que si jamais, en plus de cette situation qui s'embrase visiblement, on commence à attaquer effectivement les infrastructures pétrolières, alors là, effectivement, on peut basculer dans autre chose. Si on veut, il faut toujours rester calme si on peut. Dans une situation telle que celle-ci, je sais que autour du président Trump, beaucoup insistent pour que précisément on n'aille pas sur cette voie-là. Je crois savoir qu'il y a des discussions évidemment aussi avec la partie israélienne. Hein. C'est elle qui est évidemment très active, on le sait, donc sur tous ces sujets. Donc on va voir s'il respecte cette ligne. C'est, je crois, l'intérêt de tout le monde, y compris au cas où, évidemment, il y a un changement de régime. Et aujourd'hui, évidemment, je crois que beaucoup sont dans l'espoir, et en particulier le peuple iranien, d'attendre qu'il y ait ce changement de régime. Oui. Après 47 ans, et avec ce qu'on a pu voir pour les populations, y compris, évidemment, début janvier, tout le monde l'a encore, évidemment, en mémoire. Mais il faudra ensuite reconstruire ce pays. Il faudra reconstruire l'Iran. Alors quoi ? Le reconstruire, alors, si jamais il n'a plus les moyens économiques de le faire. Donc on voit bien que, là encore, il y a toutes les raisons pour ne pas rentrer dans ce terrain qui voudrait que les uns et les autres commencent à détruire leurs infrastructures économiques, c'est-à-dire gazières et pétrolières.
Thierry Breton, vous dites aux dirigeants et aux marchés, restons tous calmes, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, soyons très attentifs à ce qui se passe.
Et soyons lucides.
Utilisons tous les pouvoirs que nous avons pour appeler les uns et les autres à la désescalade. Oui.
C'est dans ce contexte que les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles. L'Iran sera évidemment au cœur de ce nouveau Conseil européen. Que peut faire ? Que doit faire l'Europe ?
Et l'Europe doit d'abord rester à sa place et se faire entendre.
Et vous l'entendez là, ces derniers temps ?
Non, l'Europe, effectivement, est beaucoup trop absente sur trop de terrains, parce que souvent, et je l'ai dit moi-même du reste, l'Europe ce sont des institutions, c'est trois institutions. L'Europe c'est le Parlement européen, l'Europe c'est la Commission européenne, l'Europe c'est le Conseil européen. Nous avons évidemment trois personnalités qui sont à la tête de ces trois institutions. Chacune doit respecter évidemment le rôle que lui confèrent les traités.
Et pour parler clair, Thierry Breton, on n'en voit qu'une, on ne voit Ursula von der Leyen. On ne voit que la présidente de la Commission européenne.
En toute cause, ceux qui doivent parler aujourd'hui, c'est évidemment le président du Conseil européen, parce que c'est lui qui représente
Antonio
Costa. Il faut évidemment qu'on l'entende et qu'il parle, parce qu'il parle, quand il parle, c'est au nom des 27. Il faut que les 27 s'expriment, évidemment. C'est lui qui coordonne cette parole. Et puis, n'oublions pas la haute représentante Kaya Kallas, qui parle en leur nom escalité. Oui. La présidente de la Commission, il faut qu'elle travaille, évidemment, pour l'exécutif et uniquement pour l'exécutif. Elle n'est pas là pour faire de la géopolitique, bien entendu, et de la politique internationale. Quant à la présidente du Parlement européen,
Roberta Metsola,
elle est la présidente d'un très grand Parlement européen. Elle a aussi un rôle, évidemment, à jouer, y compris un rôle diplomatique avec les autres parlements. Donc voilà, mais que chacun reste dans son couloir.
Oui.
Et c'est très important dans les moments très difficiles.
Qui n'est pas le cas aujourd'hui, entre ceux qui parlent trop et ceux qui sont trop silencieux, si je vous entends bien.
Les traités ont été bien faits. Les traités sont faits pour être respectés, surtout quand on est au milieu d'une tempête.
Est-ce que l'Union européenne doit se positionner aujourd'hui ou demain, clairement, pour dire si elle est pour ou contre cette guerre ? Est-ce que ça a un sens d'ouvrir cette question ou ce débat ?
Non, la question n'a malheureusement pas de sens, puisque nous n'avons pas été sollicités, aucun d'entre nous. Personne n'a été sollicité.
Donc passons à la suite.
Maintenant, il faut gérer évidemment les conséquences.
Alors que fait l'Europe ? Que peut faire l'Europe ?
Mais l'Europe, encore une fois, a un rôle extrêmement important d'un point de vue diplomatique. L'Europe, d'abord, nous avons un certain nombre de pays qui sont quelque part attraits également aux conséquences de cette guerre. On laisse de côté les conséquences économiques, il faut aussi s'y préparer. Mais nous avons un certain nombre de pays européens qui sont attraits, dont la France, évidemment. Évidemment, parce que nous avons des ressortissants en nombre du reste dans la région. Nous avons des accords également de sécurité avec un nombre important des pays qui sont aussi attaqués. Hein. Par parenthèse, je note que les Émirats Arabes Unis sont les pays qui ont reçu depuis le début des hostilités le plus grand nombre de missiles et de drones. Donc, évidemment, nous avons donc des accords avec un certain nombre d'entre eux. Il faut donc les exercer. Mais voilà, nous sommes là uniquement dans ce contexte. On n'est pas là, encore une fois, des belligérants ni même des co-belligérants, bien entendu.
Est-ce que l'Europe peut agir quand on connaît ces divisions, les divisions entre États membres? Pedro Sanchez qui dit dès le début de la guerre non à la guerre, le chancelier allemand qui reçut à la Maison Blanche à ce moment-là, qui ne fait aucune remarque, qui s'est repris depuis.
Là encore, les traités, rien que les traités, tous les traités. Nous avons un pays européen qui a été attaqué, je parle évidemment de Chypre. Eh bien, nous avons l'article 42.7 qui stipule de façon très explicite que lorsqu'un pays est européen, un pays européen est attaqué, ça a été le cas, tous les autres sont là pour le défendre. C'est ce que la France a fait. La France a mobilisé, on s'est interrogé. Tiens donc, mais pourquoi la France envoie donc,
son porte-avions, le Charles de Gaulle,
avec évidemment la flottille autour et un certain nombre de frégates qui vont le protéger et intervenir aussi à ses côtés, dont des frégates y compris européenne, évidemment, tout simplement parce que nous respectons les traités. Lorsqu'un pays est attaqué, c'était le cas de Chypre, Chypre est un pays européen, il a été attaqué, donc nous avons tous l'obligation, c'est un peu notre article 5 à nous, eh bien, de nous mobiliser pour venir en aide aux pays attaqués. C'est la raison, bien sûr pour d'autres, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons mobilisé une partie, donc,